BFM Business. Inside avec Karine Vergnol.
Bonsoir à tous, bienvenue, c'est votre rendez-vous d'actualité du soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Et à la une de l'actualité ce soir, la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et le plan de relance. Les deux grands combats de la rentrée pour Emmanuel Macron. Une rentrée économique et une reprise qui s'annonce bien plus compliquée que prévu. Nous verrons cela avec l'économiste Christian de Boissieux dans une dizaine de minutes. À la une également, la rentrée littéraire. 511 romans au programme après le coup d'arrêt de ces derniers mois. Les éditeurs misent bien sûr beaucoup sur cet afflux de nouveautés. Entretien avec la dirigeante des éditions Jean-Claude Lattès, Véronique Cardy, ce sera à 18h30. Et puis nous irons à Moscou, où le monde de la distribution, comme en France, finalement sort transformé et affaibli de la crise. Témoignage du directeur du développement omnicanal de Sportmaster, ce sera à 18h45. Pour l'heure, c'est le journal. Journal, c'est avec Marie Vallogne. Bonsoir Marie.
Bonsoir Karine.
Et on commence donc avec les États-Unis, quatrième et dernier jour de la convention démocrate aujourd'hui.
Et oui, avec le moment le plus attendu, le discours de Joe Biden ce soir. Un discours qui aura un goût bien particulier à l'image de l'ensemble de la convention démocrate. On retrouve notre envoyé spécial Jean-Bernard Cadier depuis Wilmington dans le Delaware, où Joe Biden va tenir son discours.
Effectivement, Joe Biden va prononcer ce soir ici à Wilmington le discours le plus important de la campagne. C'est la fin de la convention démocrate. Ce discours aurait dû être prononcé à Milwaukee devant des milliers de personnes. À la fin du discours, on aurait dû lâcher des milliers de ballons. Eh bien non, nous ne sommes ici que dans le Delaware, c'est-à-dire Wilmington, Delaware, la ville où habite Joe Biden. Et il prononcera son discours dans le centre des conférences derrière moi, quasiment seul, avec une armée de drapeaux et une armée de caméras autour de lui. Tout ça à cause, évidemment, de la crise sanitaire. Hier, la soirée de la convention a été marquée par un discours très important de Barack Obama, qu'on entend peu ces temps-ci, et qui a prononcé le réquisitoire le plus sévère qu'il n'ait jamais prononcé contre Donald Trump. Habituellement, les présidents font preuve de retenue contre leur successeur. Mais là, Barack Obama s'est littéralement lâché. Il a dit que Trump n'a jamais réussi à être président, à endosser les fonctions de président. Il a parlé de mensonges, il a parlé de théorie du complot. Il a dit qu'il a traité la présidence comme une émission de télé-réalité. Hier soir aussi, très important, ici à Wilmington, le discours de Kamala Harris. Kamala Harris, c'est celle qui serait la vice-présidente si Joe Biden est élu le 3 novembre prochain. Kamala Harris, sénatrice de Californie, 55 ans, considérée ici comme une femme noire, elle-même se considère comme une femme noire, c'est une fille d'immigrés, sa mère était indienne, son père est jamaïcain, c'est une femme qui ressemble beaucoup à Barack Obama par bien des aspects, mais surtout compte tenu de l'âge de Joe Biden qui aura 78 ans en novembre prochain, 78 ans, il est fort probable que Kamala Harris, qui n'a que 55 ans, soit un jour présidente à son tour, soit pendant le mandat de Joe Biden s'il ne le finit pas, ou après son premier mandat, ou après le suivant, mais d'ores et déjà, en la choisissant, Joe Biden a fait en sorte que cette femme de 55 ans, cette avocate noire de Californie, devienne le leader, de fait, du Parti démocrate américain.
Donald Trump qui dit n'être aucunement impliqué dans le projet de Steve Bannon. L'ancien conseiller du président a été arrêté aujourd'hui. Il est inculpé pour détournement de fonds, des fonds censés contribuer à la construction du mur promis par Donald Trump à la frontière avec le Mexique.
Depuis cet après-midi, Emmanuel Macron accueille Angela Merkel sur la Côte d'Azur.
Les deux chefs d'État vont préparer la rentrée depuis le fort de Brégançon, la résidence estivale du président français, le meilleur endroit du monde, a déclaré la chancelière en arrivant. Mais l'atmosphère sera studieuse. Outre le Covid-19, le couple franco-allemand doit s'entretenir sur de nombreux sujets internationaux. Crise au Mali, en Biélorussie et au Liban. Un agenda international particulièrement chargé.
Dans l'actualité des entreprises, on a Alibaba qui casse véritablement la baraque, Marie, et qui dépasse les attentes des analystes.
Oui, son bénéfice net a été multiplié par 2 sur le trimestre passé. Il atteint 6,7 milliards de dollars. En plein cœur de la pandémie, l'activité du géant chinois semble peu touchée. Ses ventes en ligne ont bondi de 34% sur la période, favorisées par les mesures de confinement. C'est désormais officiel. Après des mois de spéculation, Airbnb lance son processus d'introduction en bourse. La plateforme de location de logements vient de déposer son dossier auprès du gendarme boursier américain. On retrouve à New York Sabrina Quagliozzi. Sabrina, la pandémie a freiné les ambitions du géant américain pendant un certain temps. Mais ça y est, l'IPO est enfin sur les rails.
Oui, effectivement, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait, hein, cette annonce Airbnb qui se jette enfin à l'eau, très attendue à Wall Street. La pandémie, vous l'avez dit, hein, de coronavirus avait entraîné, bien sûr, l'effondrement du tourisme mondial, la fermeture des frontières et tout cela donc avait pénalisé les ambitions du géant américain. La tendance semble néanmoins s'améliorer pour le groupe. Il parle d'une amélioration de la demande depuis juin, ce qui lui permet donc de reprendre sa feuille de route direction Wall Street. Le groupe californien n'a pas donné plus de détails, pas d'informations financières, ni précisé combien de titres seront mis sur le marché. On sait juste que ce sera donc une IPO et non pas une cotation directe comme cela avait été évoqué. Rappelons qu'Airbnb a licencié près de 1900 personnes en mai dernier, soit environ 25% de ses effectifs. La société a également réduit ses coûts de marketing. Airbnb, qui était valorisé à 18 milliards de dollars seulement il y a quelques mois, après son dernier, sa dernière cycle de levée de fonds, soit près de la moitié de ce que valait l'entreprise en 2017. Dossier donc très important pour Wall Street à surveiller, bien sûr, hein, ce processus d'introduction.
Merci Sabrina. Sabrina Quagliuzzi, on vous retrouve dans quelques instants, hein, pour faire un point à Wall Street. Sinon, toujours du côté des États-Unis, on a des réductions d'effectifs en vue chez Estée Lauder.
Le groupe de cosmétiques va supprimer entre 1500 et 2000 postes dans le monde face à un mauvais quatrième trimestre avec des ventes en recul de 32%. La société va déployer un plan sur 2 ans. Entre 10 et 15% de ses magasins devraient fermer. Ryanair va abaisser les salaires de ses pilotes de 20% en Espagne. La compagnie a conclu un accord avec ses pilotes. La mesure est prise pour minimiser les suppressions d'emplois. Quel est l'impact de la crise sur l'emploi? Les plans sociaux se multiplient cette semaine encore avec Camailleux. Malgré tous les dispositifs mis en place par l'État, la crise a déjà commencé à détruire des emplois. Et selon la plupart des experts, ce n'est que le début. Caroline Morisseau.
Alors que le pire est attendu à la rentrée, la vague de licenciements a déjà commencé. Selon la DARES, il y a eu plus de 275 plans de sauvegarde de l'emploi depuis le 1er mars, avec à la clé de nombreuses suppressions d'emplois. Au total, plus de 43 300 postes sont concernés. C'est presque 3 fois plus qu'à la même période l'an dernier. Et à en croire la plupart des experts, le mouvement ne fait que commencer. Pour l'instant, ces réductions d'effectifs concernent essentiellement des secteurs qui étaient déjà fragilisés avant la crise, comme l'automobile ou l'habillement, ou encore ceux qui ont subi de plein fouet le confinement, comme l'hôtellerie-restauration. Ailleurs, tous les dispositifs mis en place par l'État ont pour l'instant permis d'amortir le choc. Mais selon les experts, l'essentiel des plans sociaux reste à venir entre septembre et le printemps prochain, au moment où les entreprises devront commencer à rembourser les charges et les prêts accordés. Au total, selon les plus alarmistes, ce sont près d'1 million d'emplois qui sont menacés.
C'est un changement de poste pour le moins inédit. Robert Azevedo, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, quitte son poste pour rejoindre Pepsi. Alors que son mandat devait encore durer 1 an, le vice-président de l'OMC laisse sa place vide dans une institution en crise. Il rejoindra les rangs de Pepsi dès le mois prochain pour s'occuper des activités du groupe en matière de politique publique notamment.
Merci Marie Vallogne. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Nous, on fait un point sur les marchés. À Paris, eh bien, on a terminé, le CAC 40 a terminé en forte baisse, hein, 1,33% à 4 911 points, échaudé forcément par les perspectives, on peut dire très très prudentes, de la Fed. Et alors, comment ça se passe du côté de Wall Street? On est toujours sur des records ou ça se calme un peu, Sabrina?
Bah écoutez, ça va beaucoup mieux. Ce matin, c'était pas terrible, hein, l'ouverture. On avait continué sur le mouvement baissier initié hier suite à la publication des minutes de la Fed, hein, qui effectivement, hein, avait montré une Fed inquiète des conséquences de la pandémie sur l'économie, sur la réponse à cette crise sanitaire également. Ce qui a bien entraîné un renversement de tendance des indices qui avaient terminé en repli. Et ça avait continué donc ce matin, d'autant que les chiffres du jour, le chiffre du jour, toujours très suivi. Les nouvelles demandes d'allocation chômage ont repassé le cap du million la semaine passée. On attendait un chiffre en dessous de ce seuil pour la deuxième semaine d'affilée. Mais on se reprend donc. Désormais, les indices évoluent sur les plus hauts niveaux de la séance avec un Dow Jones qui prend 0,1%, un S&P 500 qui est à 3380 points, plus 0,16%, un nouveau record pour le S&P 500. On verra si ça tient bien sûr ce soir à la clôture. Et le Nasdaq qui grimpe de 0,6% à la faveur pour changer des valeurs technologiques, Karine, avec Apple qui grimpe d'1,4%, qui repasse au-dessus des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Amazon plus 1%. Et Karine, bien sûr, je vais terminer avec Tesla. Tesla qui est encore en hausse, plus 6%, et qui tente, on va voir là, le seuil des 2000 dollars. On est à 1989,50 $ sur le titre Tesla, soit une progression de 6% à la mi-séance.
Eh bien, on vous rappelle dans une heure, Sabrina, pour voir si on l'atteint, ce seuil des 2000. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes en direct depuis New York. Allez, restez avec nous. Comment va se passer la rentrée, la reprise économique avec les masques, juste après le plan de relance, avec le Covid qui continue de progresser. On va voir ça avec l'économiste Christian de Boissieu. À tout de suite.
BFM Business Inside avec Karine Verniolle.
Et alors, dans les colonnes de Paris Match, aujourd'hui, Emmanuel Macron estime que la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et le plan de relance qui sera présenté donc la semaine prochaine, le 25 août, sont les deux grands combats de la rentrée. Ceci dit, pas question d'un reconfinement total pour le chef de l'État. Je cite, on ne peut pas mettre le pays à l'arrêt parce que les dommages collatéraux d'un confinement sont considérables. Sans doute un petit soulagement pour le monde économique, mais tout de même, Christian de Boissieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président du Cercle des économistes. J'y vais tout de go. Comment vous voyez-vous cette rentrée? Êtes-vous optimiste?
Difficile d'être optimiste. J'essaye d'être réaliste, c'est-à-dire nous sommes dans un contexte très compliqué. Personne ne sait où nous allons du point de vue sanitaire. Alors, le président de la République dit qu'il faut tout faire pour éviter un confinement général. On ne peut être que d'accord avec ça parce que les dégâts économiques seraient considérables. Et les dégâts humains également. La vie, c'est plus important que tout le reste, serait considérable. Bon, alors, ceci dit, moi, je pense qu'il faut durcir les mesures sanitaires. Je comprends pas, par exemple, pourquoi, en Île-de-France, on rend pas le masque obligatoire partout, au lieu de découper les rues avec masque, les rues sans masque, etc. C'est maintenant qu'il faut prendre des mesures draconiennes, peut-être... contraignante pour les Français, mais si c'est ça qui nous permettrait d'éviter un reconfinement général, je veux dire, ça, vraiment du point de vue sanitaire et du point de vue économique, ça vaudrait le coup.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, finalement? Qu'est-ce qui est le plus inquiétant, le plus problématique, selon vous, Christian de Boissieu? C'est quoi? C'est la hausse du chômage? On le sait pour l'instant assez contenu, mais on en parlait tout à l'heure dans le journal. Caroline Morisseau nous disait, certains spécialistes parlent jusqu'à 1 million de postes détruits.
Moi, je pense que c'est quand même le problème, l'emploi, c'est-à-dire que il y a du chômage partiel qui va venir à échéance, qui va se terminer et qui va laisser la place à du chômage tout court. Vous avez évoqué dans votre journal les licenciements secs, les plans sociaux. Donc nous sommes dans ce contexte de cercle vicieux où la montée du chômage gonfle les épargnes de précaution et pèse sur la consommation. Et donc très bien de prendre des mesures en faveur des entreprises, c'est pas moi qui vais contester, mais il faut marcher quand on fait des plans de relance, il faut marcher sur les deux jambes. Il faut à la fois agir sur l'offre et sur la demande. Et sur l'offre, je vois bien les mesures qui sont annoncées en faveur des entreprises et je les salue. Sur la demande, la montée du chômage provoque forcément une épargne de précaution qui a été très forte avant le confinement, pendant le confinement et qui va le rester. Et donc, comment débloquer la consommation dans un contexte où la confiance n'est pas là, la confiance des consommateurs, pour moi, c'est l'équation centrale. Et je termine sur votre question en disant que je trouve que les plans de relance mettent trop de temps à se mettre en action. Alors, Madame Merkel est à Brégançon avec le président de la République, mais je vous rappelle quand même que le plan de 750 milliards d'euros au niveau européen, il va commencer au début 2021. Dans quel état sera l'économie début 2021? Dans un état moins bon qu'aujourd'hui ou plus mauvais.
D'ailleurs, le plan de relance allemand, il a déjà été annoncé au début de l'été.
Oui, mais je ne comprends pas pourquoi du côté français on attend le 25 août alors que le plan de 100 milliards d'euros français va reprendre déjà un certain nombre de mesures qui sont actées. Le chômage partiel, des mesures qui ont été prises en faveur de différents secteurs, etc. On a l'air de dire qu'on va tout d'un coup sortir 100 milliards d'euros le 25 août, alors que je répète qu'on reprend en partie des choses déjà annoncées, mais en même temps, on crée de l'attente alors que c'est dès juillet qu'il aurait fallu se mettre en branle. Et au niveau européen, même si, bien sûr, il faut respecter les procédures européennes, c'est trop tard. Je veux dire,
c'est trop long selon vous. C'est trop long selon vous, tout ça. Le temps de la décision, de la mise en œuvre est trop long. Ceci dit, effectivement, vous le disiez, il y a beaucoup d'attentes sur ce plan de relance qui sera annoncé le 25 août. Mais il va servir à quoi? C'est une nouvelle aide à moyen terme? C'est une orientation stratégique sur le long terme? À votre avis, qu'est-ce qui serait le plus bénéfique?
Moi, je pense qu'il faut accentuer la baisse des impôts de production. Donc ça concerne l'offre, les entreprises. Dans le plan de relance, j'ai bien compris, il va y avoir sur les 100 milliards, il va y avoir une baisse des impôts de production de 10 milliards par an, c'est-à-dire 20 milliards sur 2 ans. Bon, c'est bon à prendre, si je puis dire, pour les entreprises, mais je reviens sur les problèmes de demande. Je pense que la grande difficulté, le grand défi, c'est comment ramener la confiance dans un contexte où le marché du travail va se détériorer. C'est un peu la quadrature du cercle. C'est un peu la quadrature du cercle parce que la montée inéluctable du chômage, moi je pense qu'on va vers un taux de chômage de 12% en mars prochain. On était à 8% en janvier, en janvier dernier. Donc vous voyez la dégradation due à la crise sanitaire et à la crise économique. Là, il y a des mesures qui ont été prises de type écologique, favoriser l'achat de véhicules électriques par les Français. Également la rénovation thermique des logements. Bon,
mais il en faut plus, selon vous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, finalement, Christian de Boissieux, pour relancer tout ça?
Moi, je pense qu'il faut mettre en place un certain nombre... Il faut être imaginatif dans le domaine financier, puisque l'épargne est là, elle est même très, j'allais dire, trop importante. Il faut arriver à la canaliser vers le financement des entreprises. Et ça ne va pas se faire automatiquement. Les Français, ils vont pas aller... spontanément en bourse, même si les bourses se portent plutôt bien par rapport à l'économie réelle qui va pas bien. Il y a une déconnexion là. Mais même si globalement les marchés d'actions, je parle pas au jour le jour, je parle globalement, se portent pas si mal que ça, je pense qu'il faut réfléchir à des instruments financiers, à une politique fiscale de l'épargne qui permettrait à un peu plus de l'épargne des ménages d'aller s'investir vers le financement des entreprises. Bon, alors il y a des projets de transformation de dette en equity, c'est-à-dire en capital, etc. Mais quand je regarde le succès extrêmement mitigé du PEA-PME, vous savez, le plan d'épargne en action ciblé vers les PME, je pense qu'il faut remettre ça à plat et imaginer un peu de tuyauterie et de fiscalité qui permettrait non pas de tuer l'épargne, mais de la mobiliser au service de la croissance et de l'emploi.
Voilà, ça c'est peut-être une solution. Au-delà de ça, on va essayer de voir un petit peu à plus long terme. Finalement, Christian Boissieux, à votre avis, quand pourra-t-on retrouver des chiffres d'avant-crise? On disait au deuxième trimestre, le PIB français a chuté 13,8%. Est-ce qu'on peut enchaîner comme ça les croissances négatives? Par exemple, pour le trafic aérien, les spécialistes parlent d'un retour à la normale, pas avant 2024. Pour l'économie française,
c'est ce qu'a dit le patron d'ADP, Lucien Romanet, il a dit 2024. Et je pense que quand on regarde ce que prévoient les conjoncturistes, ils disent on va retrouver globalement le niveau d'avant-crise vers 2022. Vous vous rendez compte de la casse que cette crise aura fait. Alors il y a des secteurs qui rattrapent plus vite, puis des secteurs qui sont plombés durablement, la culture, hôtel, restaurant, l'aérien, vous en avez parlé, l'automobile est sous la tente à oxygène, à travers les mesures écologiques qui sont prises en faveur de l'achat de véhicules électriques. Donc, je pense qu'on a une crise. On n'en a pas été conscient tout de suite, mais assez vite, il est apparu que cette crise était 3 ou 4 fois plus importante que la crise de 2009, que la récession de 2009, suite à la faillite de Lehman Brothers, suite à la crise bancaire. Et alors, les banques centrales lâchent tout, les États lâchent tout parce qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est open bar. Ce qu'on lâche en termes de liquidité, de dépenses publiques, etc., c'est nécessaire pour limiter la casse. C'est pas suffisant pour empêcher la casse. Donc, ce qu'on a fait depuis 4 mois, depuis 5 mois, en lâchant tout, c'est que on n'empêche pas la récession, on essaye de la limiter, mais elle va être à moins 10% pour la France cette année. La récession, moins 10%. On n'a pas vu ça depuis combien de temps? Moi, je n'ai jamais vu ça à ma connaissance, en tout cas de mon vivant. Alors, donc, il faut remonter très, très loin, très, très loin.
Merci beaucoup Christian de Boissieu pour ce décryptage. Et comme vous le disiez en début d'interview, difficile d'être optimiste dans ces conditions, mais soyons au moins réalistes et essayons de trouver quelques solutions comme vous venez de nous le proposer aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Cercle des économistes. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et peut-être un moyen de relancer la machine, si j'ose dire, ce sont ces grands chantiers qui sont mis en place en France et dont nous parle Jean-Baptiste Huet tous les jours. Écoutez ce qu'il nous raconte.
BFM Business, les grands chantiers de la reprise. Jean-Baptiste Huet.
Technologie, infrastructure de transport, numérique, espace, tout l'été, on va évoquer ces grands chantiers français ou européens qui se construisent actuellement sous nos yeux et qui préparent le monde d'après. Encore un chantier qui se déroule sous nos pieds, cette fois ça se passe entre la Suisse et la France, à cheval sur la frontière, à 100 mètres de profondeur, c'est le LHC, le grand collisionneur de particules, un temple mondial de la recherche fondamentale. Imaginez un anneau de 30 km dans lequel on fait entrer en collision des particules, des protons, des noyaux d'atomes à la quasi-vitesse de la lumière et par moins 275 degrés. De ces collisions ultraviolentes naissent des particules encore plus petites et ainsi de suite, comme des poupées russes. On explore de cette manière la matière et l'infiniment petit. On joue là avec des éléments qui sont 10 000 milliards de fois plus petits qu'un moustique. Un monde où la puissance s'exprime en téraélectronvolts. Sauf que cet anneau, eh bien, mis en service en 1998, il commence à manquer un peu de puissance. Il faut le booster. L'idée, c'est donc de pousser encore un peu plus ses performances. Bienvenue au LHC Haute Luminosité, un chantier qui prévoit l'installation sous terre, eh bien, de nouveaux matériels de refroidissement cryogénique, de systèmes de ventilation. On va mettre en place de nouveaux aimants surpuissants qui vont aider à guider les faisceaux de particules tout le long de l'anneau. C'est un chantier qui doit s'achever en 2027. Des travaux assez important qui avoisine le milliard d'euros. Il a fallu creuser par exemple un puits de 80 mètres de profondeur, créer plusieurs kilomètres de galeries souterraines. C'est un chantier absolument stratégique pour la recherche fondamentale française et européenne. Car oui, c'est au LHC qu'on a fait parmi les plus importantes découvertes scientifiques de l'histoire. Par exemple, le web qu'on utilise tous les jours a été inventé dans sa version moderne au LHC, au CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Récemment, les scientifiques ont découvert, vous avez dû en entendre parler, le boson de Higgs, cette particule dont on soupçonnait l'existence sans jamais avoir réussi à prouver qu'elle était bien là et qui donne leur masse aux autres particules. Découverte incroyable. Un LHC qui a aussi permis d'avancer considérablement dans les traitements anticancéreux, dans l'imagerie médicale, des avancées spectaculaires aussi dans le monde du calcul. Il faut des ordinateurs extrêmement solides pour appréhender, pour traiter tous les résultats des expériences du LHC. Et ce n'est pas fini, puisqu'un autre projet est également dans les tuyaux. Un anneau de 27 km, c'est bien. Un anneau de 100 km, c'est encore mieux. Et ça, c'est l'objectif du CERN pour 2050, agrandir l'actuel accélérateur. Les scientifiques estiment que le LHC devrait avoir épuisé son potentiel de découverte après 2035. Place donc OFCC, le futur collisionneur circulaire. L'idée, hein, c'est de réaliser des collisions encore plus puissantes et ainsi de pouvoir descendre encore un peu plus, toujours un peu plus loin dans le monde de la matière. Là, on parle d'un projet à 15 milliards d'euros, mais au final, hein, avec le LHC, on a là un extraordinaire outil d'attractivité économique et scientifique qui permet depuis maintenant des décennies, eh bien, de faire rayonner les physiques françaises et européennes sur la scène internationale, avec bien sûr, hein, toutes les retombées économiques qui vont avec.
Et voilà, ces grands chantiers dont nous parle tous les jours Jean-Baptiste Huette. Restez avec nous dans quelques instants. Rappel de titre sur BFM Business et puis nous parlerons de la rentrée littéraire. Et oui, parce qu'il y a quand même des enjeux cette année. On attend 511 romans. On va voir comment ça s'organise du côté de chez Jean-Claude Lattès. À tout de suite.
BFM Business. Inside, avec Karine Verniolle.
Avec 511 nouveaux romans d'ici la fin octobre, dont de nombreuses valeurs sûres, le monde de l'édition entend bien conjurer cet automne les crises sanitaires et économiques. Véronique Hardy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente des éditions Jean-Claude Lattès et l'une des filiales de littérature d'Hachette Livre. 511 nouveaux romans, toujours autant ou presque finalement que l'année dernière, parce que selon les comptes de Livre Hebdo, l'an dernier, on en avait 524. Comment se fait-il qu'il y en ait toujours autant dans une rentrée qui, on le sait, par ailleurs, est quand même un peu compliquée?
Alors, je pense que c'est les programmations de rentrée n'ont pas tellement bougé en réalité. On a dû déjà tellement bouleverser nos programmes de parution pour décaler des titres prévus avant l'été que finalement ce qui était prévu notamment pour ce qu'on appelle la rentrée littéraire n'a pas tellement évolué. Certains éditeurs ont fait le choix de décaler par exemple des premiers romans pour privilégier les valeurs sûres. Moi, ce qui n'est pas notre cas chez Lattès puisqu'on a maintenu nos deux premier roman de la rentrée, Mémoire de soi de Adrien Born et Noces de Jasmin de Ella Fekir. Mais c'est vrai que c'est des parutions, celles qu'on a décalées d'avant l'été, qu'on a reprogrammées jusqu'au printemps 2021. Donc c'est normal que sur la rentrée littéraire, on soit, c'est vrai, à une dizaine de titres seulement de moins que l'année dernière.
Est-ce que vous avez quand même réajusté un petit peu les choses? Vous le disiez, certains ont choisi de laisser un peu de côté les nouveaux romans pour miser sur les valeurs sûres. Est-ce que vous, de votre côté, chez Lattès, vous avez un petit peu réajusté ce qui était prévu depuis?
On n'a pas touché à notre programme de rentrée littéraire stricto sensu. En revanche, c'est vrai que des titres ont été ajoutés en non-fiction, puisque c'est plutôt en non-fiction, documents, essais, que le besoin de livres s'est fait sentir. Donc nous, par exemple, est paru hier « Nous n'étions pas prêts » de Gilles Pialoux, qui est le chef de maladie du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Et donc c'est par exemple ce genre Nous n'étions pas prêts, c'est son récit de l'intérieur, le combat du professionnel et de l'homme. C'est clairement une parution qui n'était pas prévue avant la tragédie et le confinement.
Énormément de parutions, effectivement, sur la crise sanitaire. On voit
oui, en même temps, qui répond à un besoin de décryptage,
de témoignage.
Et ça montre, exactement.
Et de se poser un petit peu alors qu'on était à un moment donné dans le flux d'information.
Exactement. Et avec toujours cette valeur refuge du livre, finalement, qui vient répondre à la fois à un besoin de comprendre l'actualité, de décrypter le monde qui nous entoure, et en même temps cette valeur refuge qui joue sur le besoin d'évasion de cette réalité qui peut nous étouffer. Et c'est là où en fiction, la rentrée littéraire devrait permettre de s'évader au lecteur, en tout cas on l'espère avec
Donc vous avez connu un arrêt pratiquement total, ça c'était pendant le confinement, je crois qu'on était à moins 95%, ouais. Assez logique. En revanche, déconfinement, même ouverture des librairies avant le déconfinement, et là gros engouement sur les ventes de livres. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment s'annonce la rentrée? Est-ce qu'on est resté sur ces augmentations vues juste après les confinements?
Alors en fait, on est plutôt plus serein que en mars, ça c'est sûr, puisque effectivement pendant tout le confinement, librairies fermées, Amazon totalement désorganisée, donc on a quasiment pas vendu un seul livre, si ce n'est en GSA, en grande surface où la partie alimentaire était ouverte et donc il y avait certains livres disponibles. Mais rebond formidable à partir de début juin. Nous par exemple, on a sorti le premier roman d'Olivia Ruiz, La commode au tiroir de couleur,
qu'on a écoulé depuis. Gros carton cet été, hein. Combien?
100 000 exemplaires. Donc c'est vrai que c'était un peu risqué, on ne savait pas trop à quelle date de parution, et plusieurs éditeurs ont fait le choix de garder des enjeux pour faire venir les gens en librairie au déconfinement, et là on entendait dans la bouche des libraires, c'est Noël en plein c'est été. Ça.
Donc les gros succès de l'été, justement, vous le disiez, vous citiez Olivia Ruiz à l'instant, mais est-ce que ça continue? Parce que c'est effectivement, souvent on achète les ouvrages, on disait hors antenne, avant l'été, pour partir en vacances. Est-ce que là, ça continue quand même sur...
Alors en fait, on n'a pas les chiffres à fin août, mais à fin juillet, on était sur du plus 20%
encore
sur le marché. Donc, toute cette vraiment, les Français ont été frustrés de ne pas pouvoir acheter de nouveautés, en tout cas, et donc frustrés de lecture pendant tout le confinement. On l'a senti, cette compensation au déconfinement. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le livre est encore en ce moment la seule offre culturelle, puisque les cinémas ont rouvert, mais les gens doivent hésiter quand même à se ruer dans les salles, les concerts, on n'en parle même pas. Donc c'est vrai qu'on a cette position qui, pour les libraires notamment, est assez intéressante, d'être la seule offre culturelle à un moment où, justement, Amazon, pour ne... enfin, les sites de vente en ligne ont aussi été très désorganisés, ce qui a favorisé la librairie. Sans compter le fait que les Français ont passé leurs vacances en France et que donc ça a nourri aussi les ventes.
Sur les sites de vente en ligne et notamment Amazon.
Ah bah oui, non mais c'est des équilibres économiques qui font qu'on a toute une part de notre chiffre d'affaires qui se joue là, mais c'était intéressant, cette période était intéressante de voir la vitalité, le dynamisme, aussi l'esprit
quel
d'initiative. C'est entre 5 et 10%.
Entre 5 et 10% se font sur les plateformes de vente. Aujourd'hui, Véronique Cardy, première question sur votre entreprise à vous, donc chez Lattès, comment ça va? Parce que du coup, il n'y a pas eu de vente pendant un moment, quand même, c'est compliqué. On est très bien placé pour le savoir que dans l'immédiat, c'est très compliqué. Il y a pas mal de plans sociaux, de réajustements. Comment ça va dans l'édition?
Alors, nous, chez Lattès, c'est vrai qu'on a la chance d'appartenir au groupe Hachette, qui est très solide et qui a montré, justement, sa résilience, sa capacité d'adaptation pendant toute cette période de crise. Ensuite, pour notre maison, c'est vrai qu'il y a un effet programme éditorial. Je la citais, Olivia Ruiz, elle était cinquième du top roman pendant tout l'été. On avait un certain nombre de titres. Adèle Bréau avec sa saga de l'été Frangine qui a fait x2 carrément par rapport à son titre de l'année précédente. John Grisham, Poids lourd, qui là aussi a connu une formidable destinée. Les Giacometti Ravenne avec la relique du chaos. Donc en fait, chez Lattès, on a passé un très bon été qui permet... pas totalement, mais en partie, de compenser le gouffre qu'a été, bien sûr, de ne pas vendre de livres pendant 2 mois. Des belles choses s'annoncent pour l'automne, mais c'est vrai que, comme toujours, et encore plus en littérature, on est sur de l'imprévisible, donc on arrive confiant et avec tout notre enthousiasme pour la rentrée. Des gros enjeux aussi en octobre. On va faire paraître la première autobiographie d'Arsène Wenger, l'entraîneur mythique. Donc il y a un effet programme qui joue, mais bien entendu, ça va être une année en retrait par rapport à une année normale.
Qu'est-ce qui va rester de cette expérience du confinement dans la façon de faire fonctionner votre entreprise, votre travail d'éditeur et dans la stratégie future?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a quand même forcé, nous qui, dans le monde de l'édition, on est plutôt dans un monde traditionnel, on vend du livre papier, on organise des rencontres physiques avec les auteurs. Donc, ça nous a forcé à nous réinventer, à réfléchir à notre manière de parler des livres, de les faire rayonner. Pendant le confinement, avec tout un tas d'initiatives comme les rencontres en live sur Instagram, les ateliers d'écriture de notre label La Grenade, qui est un nouveau label de littérature. Donc ça nous a vraiment obligés à trouver comment créer du collectif sans pouvoir se rassembler physiquement. Et finalement, c'est vrai que on peut parfois se plaindre du fait que les gens ne lisent plus parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Nous, notre stratégie, c'est de se dire ça existe et donc il faut réinvestir ces réseaux sociaux où les gens sont, dans tous les cas, avec de la parole d'auteur, avec du contenu. On a réalisé un formidable clip de rentrée littéraire, par exemple, allez le voir sur notre site, réalisé par Adnan Traga, pour parler de nos livres et les faire rayonner d'une façon qui soit attractive.
Et sur le modèle économique, est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question de dire qu'il faut peut-être faire des livres qui coûtent un petit peu moins cher, peut-être en faire un petit peu moins, peut-être...
Alors, comme toujours, c'est plutôt du côté des budgets, justement, marketing, promotionnels, que ça se joue. encore une fois, nous, on n'est pas en situation de péril comme peuvent l'être des plus petites maisons d'édition indépendantes. Mais ça force aussi à se réinventer au niveau des modes de travail. C'est vrai qu'on a mis en place le télétravail alors qu'on n'était pas du tout dans ce type de fonctionnement avant le 18 mars. Ça a ses limites également en termes d'intelligence collective et de créativité spontanée, mais il faut prendre aussi ce qu'il y a à apprendre dans ces modes de fonctionnement.
Parce que vous aviez fait une tribune vers le mois d'avril, je crois, et vous disiez qu'il faut réduire la production sans renoncer à la découverte. C'est bien que vous avez aussi cette idée-là.
Exactement, c'est ce que je vous citais. C'est pour ça qu'en rentrée littéraire, chez Lattès, on a décidé de ne pas décaler les premiers romans, Mémoire de soi et Noces de jasmin. Réduire la production, c'est le serpent de mer dans l'édition, mais je pense que d'avoir été forcé de le faire pour les parutions d'avant l'été et de réorganiser totalement nos programmes, ça aura une vertu à long terme. Et puis, ne pas renoncer à la découverte, bien entendu, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a une appétence pour la découverte, les nouvelles voies, et qu'en tout cas, nous, on compte bien les soutenir chez Lattès.
Et oui, parce que vous le disiez, hein, au moins deux nouveaux romans pour cette rentrée.
Donc exactement.
Sont sortis là, hein, c'est cette semaine que ça se joue. Aller dans les librairies, c'est aujourd'hui. Aller découvrir tout ça. À partir de quelle date vous avez les premières indications pour la rentrée littéraire, les premiers chiffres?
Ah bah c'est la semaine prochaine. Après c'est les tout premiers chiffres qui sont un petit peu biaisés puisque effectivement un certain nombre de lecteurs sont encore sur plutôt des lectures d'été, des sagas, etc. Mais ça va commencer à frémir à partir de début septembre, les sélections de prix, etc.
Merci beaucoup Véronique Cardy, présidente des éditions Lattès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, restez avec nous, on va parler un petit peu d'international. Rendez-vous avec Erwan Maurice et Chineco qui vous fait découvrir des entrepreneurs partis en Chine et notamment dans le secteur de l'alimentation. Écoutez le récit de Gilles Devin, il est président de la société d'importation Fabulous Original Foods installée en Chine.
Chineco. Écoutez, ça a été effectivement très compliqué puisque depuis, on va dire, fin janvier, tout a été arrêté complètement net. Les restaurateurs ont tous fermé juste au moment du Nouvel An chinois, donc c'est-à-dire fin janvier, début février. Donc le chiffre d'affaires sur ma partie food service est arrivé à zéro et tout doucement, là, depuis avril, reprend. Voilà, vraiment très tout, vraiment doucement.
Qu'est-ce qui a été contraignant pour l'industrie? C'est l'arrêt, finalement, de l'économie, l'arrêt de la consommation, la fermeture des magasins, les mesures barrières, les mesures d'hygiène, tout ça, c'est ce qui a fait que ça a été très violent pour l'agroalimentaire?
Alors, effectivement, les restaurateurs chinois ont eu l'obligation, comme en France, de fermer. Donc, le business, la fourniture des produits agroalimentaires vers ce type de clients, c'est stoppé net. Parallèlement à cela, le retail, donc les magasins, ont mis en place un format de livraison. Et donc, c'est grâce à la partie retail qu'on s'en est un petit peu sorti, où on a quand même un petit peu de chiffre d'affaires. Derrière cela, il y a eu le déconfinement, comme on est en train de vivre en France là depuis le 11 mai. Et donc en termes, on va dire administratifs, au bureau, on a mis des procédures en place, des protocoles pour que les collaborateurs aient les masques nécessaires et la prise de température. À chaque fois qu'un livreur venait au bureau, on notait ses coordonnées pour pouvoir savoir qui était venu et s'il y avait des conséquences au moment où quelqu'un de chez moi était contaminé.
Et on voit, pour ceux qui nous suivent à la télévision, Gilles, les images que vous nous avez envoyées, tournées dans des magasins. Alors, on est où? On est à Shanghai, on est à Pékin?
On est en plein centre de Shanghai.
On est en plein centre de Shanghai et les magasins sont vides. En revanche, ils sont pleins de nourriture. C'est-à-dire, il n'y a pas de carence ou de défaillance d'approvisionnement. Les rayons sont pleins.
Alors, principalement des rayons, des produits chinois, puisque les produits occidentaux n'ont pas été forcément la priorité des achats des Chinois. Hein. Comme nous en France, les consommateurs chinois français se sont rués sur les produits de première nécessité et pas sur des frivolités, je vais dire ça comme ça. Donc en Chine, ça a été à peu près la même chose. Les vidéos que je vous ai envoyées datent du 8 mai, elles ont été prises vers 11h midi du matin. Donc effectivement, on voit pas grand monde. Alors les centres commerciaux en Chine ne sont pas du tout comme les centres commerciaux en France. malgré le confinement, il y a pas trop de monde quand même. Ils sont très esthétiques, hein, très bien organisés, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il y a un service de livraison qui est extrêmement performant.
D'un mot, Gilles, maintenant que l'économie repart, on a vu les images de justement ces grandes villes, Pékin, Shanghai, qui recommencent à fourmiller, comme c'était le cas avant, fin 2019, avant le confinement, avant cette épidémie. Est-ce que ça va mieux pour le secteur de la restauration et pour les Français notamment qui sont dans le secteur?
Alors,
en Chine,
pas mal de restaurants français ont réussi à tenir le coup, enfin français occidentaux on va dire, ont réussi à tenir le coup. Beaucoup de restaurants à Shanghai, des chaînes de boulangerie, des choses comme ça sont en très grande difficulté, voire malheureusement ne pourront pas réouvrir. Donc c'est clairement économiquement, comme dans beaucoup d'endroits, un désastre.
Ces entrepreneurs, Gilles, de la restauration donc occidentaux, français, ils sont en première ligne, ils sont aussi moins protégés parce qu'ils ne bénéficient pas des aides dont vont bénéficier les entrepreneurs chinois. Il y a une différence là-dessus aussi qui fait que c'est plus compliqué pour eux.
Alors, il y a effectivement une petite différence au niveau législatif et au niveau aide. Il est clair qu'aujourd'hui, quelles sont les aides que nous avons eues? Premièrement, il y a eu, on va dire, la moitié des charges sociales qui ont été annulées février, mars, avril. Deuxièmement, l'autre partie des charges sociales a été reportée à juillet, août. Voilà. Par contre, nous n'avions pas le droit de licencier les collaborateurs et on n'a absolument aucune aide de la part de l'État. Voilà, c'est chacun pour soi et chacun son niveau de responsabilité en tant qu'entrepreneur.
D'un mot pour conclure, Gilles Devin, président de Fabulous Original Foods, quel bilan vous tirez de tout ça? Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre en place de nouveaux process à l'avenir pour éviter de telles conséquences?
Alors, c'est très compliqué, cette question. Hein. Personne ne s'attendait à ce qui vient de se passer. Évidemment, nous allons prendre la mesure de ce qui vient de se passer et de s'adapter. Hein. L'être humain doit absolument s'adapter pour continuer à vivre, et un entrepreneur tout autant. On a une problématique de stock hein, par rapport à des produits importés. On a une problématique de timing de livraison de ce stock. On a dans ce stock-là des chefs live, des DLC qui sont plus ou moins courtes ou plus ou moins longues, donc ça veut dire qu'ils font mourir le produit. Donc c'est très compliqué d'anticiper ce genre de choses. C'est très compliqué.
Et voilà les difficultés du retail en Chine, les difficultés du retail en Russie également. Eh bien, on va en parler dans un tout petit instant avec un dirigeant de Sportmaster qui sera en direct de Moscou avec nous. À tout de suite.
BFM Business Inside avec Karine Verniolle.
Et notre rendez-vous international, direction Moscou, la Russie qui annonce avoir développé son premier vaccin contre le coronavirus, mais finalement qui vit un petit peu les choses comme nous, avec la découverte des premiers cas le 1er mars, elle s'engage dans sa quatrième grande crise au cours des 20 dernières années. Vincent Loutens, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du développement omnicanal chez Sportmaster. Sportmaster, c'est le 13e distributeur d'articles de sport au monde. Vous êtes donc dans le secteur du retail. Au cours de la crise, comme d'autres retailers, comme d'autres distributeurs en France, j'imagine, vous avez senti un arrêt des ventes et puis ça a repris plus ou moins bien. Ceci dit, est-ce que il y a eu autant de soutien aux entreprises que les soutiens qu'ont pu avoir les entreprises françaises?
Quand on compare la situation en France et en Russie, il m'est difficile de dire qu'on a obtenu le même niveau de soutien. J'entendais votre précédent interlocuteur. Les principales mesures ont été des mesures fiscales envers les petites et moyennes entreprises qui se sont traduites avant tout par des reports de taxes ou des ajournements de paiement de taxes. Il n'y a pas eu en soi de véritables mesures de soutien à l'économie comme on a pu le constater en France. Et les principales mesures d'accompagnement étaient avant tout des facilités d'accès au crédit afin de permettre aux entreprises de passer cette période difficile du Covid.
Donc pour vous, je crois que Sportmaster, c'est 22 000 salariés, c'est ça?
Tout à fait.
Donc a priori, vous n'avez eu le droit à aucune aide pour l'instant?
On peut dire ça comme ça, oui.
Bon. Vincent, ceci dit, je le disais un petit peu comme en France, vous avez dû vous réinventer. Et vous, en tant que directeur du développement omnicanal, j'imagine que vous êtes au cœur de la question chez Sportmaster. Il a fallu rebasculer sur le digital, imaginer les choses différemment?
Depuis maintenant. Pour quelques années, on avait déjà engagé cette transformation digitale à laquelle tout le monde s'astreint aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui a permis d'engager la période du Covid avec plus ou moins de sérénité. Ce qui n'était pas forcément le cas pour l'ensemble des entreprises russes qui, elles, ont été confrontées à un mur. Le mur de l'interdiction de vendre du fait de la fermeture de la majeure partie des points de vente à travers la Russie, hormis le commerce alimentaire et certains autres produits de première nécessité. Donc, on a eu la chance de pouvoir tirer profit de la préparation qu'on avait engagée au cours des 5 dernières années et de pouvoir très rapidement, effectivement, basculer vers l'activité online qui nous a permis d'accompagner nos consommateurs qui, en même temps, ont transformé leur mode de consommation du sport en étant plutôt dans un sport à domicile, que ce soit le fitness, le yoga ou autre. On a été capable de les accompagner et de les servir tout au cours de la période du Covid.
Et aujourd'hui, où vous en êtes, si j'ose dire, où vous en êtes, vous, chez Sportmaster, et où en est le secteur du retail? Est-ce que, comme en France, il va y avoir une certaine hécatombe, malheureusement, du côté des enseignes?
Quand on analyse l'évolution des dernières semaines, avec un retour progressif à la normale, on constate effectivement que d'un point de vue point de vente, l'ensemble des points de vente n'ont pas encore ouvert. La situation, bien sûr, est disparate en fonction des régions. La Russie est un pays immense et chacun des gouverneurs des régions est en droit de prendre les mesures qu'il considère les plus pertinentes pour la sauvegarde de ses habitants. Au regard de ça, on constate aujourd'hui qu'un certain nombre d'opérateurs, que ce soit dans l'univers des vêtements, des chaussures, que ce soit même dans la beauté, sont en train, de perdre un certain nombre de points de vente du fait de l'absence d'ouverture de ces points de vente auprès des centres commerciaux des différentes régions qui sont touchées par les mesures de confinement. Au-delà de ça, ce que l'on constate également, c'est que un certain nombre d'opérateurs qui avaient des boutiques ont décidé de ne pas forcément revenir dans leur activité. Et certaines études laissent entendre que d'ici la fin de l'année, on aura entre 10 et 15% des points de vente qui auront disparu du marché russe. En parallèle, si on regarde l'activité restauration, on est plutôt sur une moyenne de 25 à 30% de restaurants qui risquent de ne pas rouvrir ou qui ne rouvriront pas d'ici la fin de cette année.
Et là, en ce moment même, dans les jours qui viennent, est-ce qu'on est plutôt dans une idée de reprise à Moscou où vous êtes et vous qui êtes dans une grande entreprise, ou est-ce que, comme en France, on sent cette envie de reprise un peu réfrénée parce que port du masque obligatoire en entreprise, parce que multiplication des cas? On est dans quel état d'esprit pour terminer en ce moment à Moscou?
On est dans une situation un peu mitigée puisque on sent effectivement que le consommateur a besoin de sortir. On était en auto-isolement pour presque 6 mois. Les gens ont besoin de pouvoir retrouver l'accès à la rue, se déplacer, consommer. Mais en même temps, on constate que leur acte de consommation n'est pas au même niveau que ce qu'il était pré-Covid. Donc pour les entreprises et pour les retailers, ce que l'on constate, c'est qu'en fin de compte, on s'attend à une très forte baisse de l'activité au global d'ici à la fin de l'année, avec un potentiel de rebond simplement à partir de 2021 et 2022.
Il va falloir patienter encore un petit peu. Merci infiniment pour votre témoignage, Vincent Loutens. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement omnicanal chez Sportmaster et que vous étiez en direct avec nous depuis Moscou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Et en France, les entreprises résistent toujours. Vous le savez, c'est ce que nous montrent les reportages de Justine Vassogne et Olivier Mélan. Aujourd'hui, la start-up Perform VR qui s'est lancée sur le marché de la réalité virtuelle pour les cyclistes.
Et aujourd'hui, on est dans le quartier de la Bastille à Paris. C'est ici que la start-up Perform VR est venue tester son produit, un casque de réalité virtuelle pour les cyclistes. Une idée qui a rencontré beaucoup de succès avec le confinement. On va voir ça. Dans la salle de sport, l'appart fitness de Bastille, deux sportifs testent le casque de Perform VR. Ils pédalent sur un vélo d'intérieur et devant eux défilent les routes de Camargue, le viaduc de Millau, les lacets des Pyrénées. Ils ont le choix entre une douzaine de parcours. Ce casque, c'est Dimitri Prikotko, ancien athlète professionnel, qui en a eu l'idée alors qu'il était encore en exercice.
On avait des périodes de coupure où, quand on est blessé, du coup, souvent, on nous redirigeait vers le vélo d'appartement. Et c'est là-dessus où je commence à regarder la montre au bout de 5 minutes. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose pour le rendre plus intéressant.
Il y a 5 ans, Dimitri Prikotko se lance et fonde Perform VR. Il confectionne un casque de réalité virtuelle et une appli qui va donc permettre aux cyclistes d'intérieur d'avoir la sensation de pédaler dehors. Perform VR commercialise son premier casque fin 2018. La jeune pousse a d'abord comme idée de travailler avec des salles de sport. Elle commence à équiper des salles à Laval, à Perpignan, à Montpellier. Mais le confinement est passé par là. Xion Goa, qui est le responsable marketing de Perform VR.
Les salles de sport, c'était en stand-by. C'était compliqué de toute façon de les approcher, étant donné qu'ils étaient fermés. Donc on a dû réadapter notre offre pour passer sur du grand public, pour aller toucher l'utilisateur final au départ.
Pendant le confinement, Perform VR a vendu une dizaine de casques à des particuliers. Un début timide, mais qui a conforté la jeune pousse dans son changement de stratégie. Si elle va continuer à démarcher des salles de sport, les particuliers vont devenir son marché phare. Perform VR a d'ailleurs dû adapter son produit pour répondre au mieux aux attentes de sa nouvelle cible.
Le particulier veut aujourd'hui avoir un aspect communautaire très fort. On a été obligé d'adapter le produit rapidement. Pour la version numéro 2 du projet qui va sortir courant septembre-octobre, effectivement, on pourra jouer avec son meilleur ami qui est situé à l'autre bout du monde et on pourra faire le même parcours et donc se challenger pour savoir qui dépasse l'autre et savoir qui est le meilleur sur tel ou tel trajet.
D'ici la fin de l'année, l'objectif de Perform VR est de vendre un millier de ces casques. La jeune pousse va bientôt réaliser une levée de fonds. Elle va aussi recruter et réfléchit à de nouvelles fonctionnalités pour son casque. Une version pour les rameurs, mais aussi pour les astronautes dans l'espace.
Vaste programme. Donc restez avec nous dans un instant. La suite d'Inside, un nouveau journal à 19h. Et puis nous reparlerons de la reprise économique et nous ferons le point également sur ce qui se passe du côté des États-Unis et du fort de Brégançon. À tout de suite.
BFM Business Inside, au cœur de l'écho.